Pour commencer, puisqu'on a parlé d'histoire, il semble pertinent de donner la parole à une historienne, donc Chloé Morel, qui, je crois d'ailleurs, a travaillé pour l'UNESCO et qui a une grande connaissance, comme ses livres le montrent, de l'histoire de l'ONU. Nous allons donc lui demander de nous retracer, de nous faire une petite synthèse de ces 75 ans de lutte de l'ONU et je crois en particulier de l'UNESCO contre le racisme.
Bonjour à tous, merci à tous d'être venus pour cette conférence ce soir. Alors je vais vous présenter un historique de l'action de l'UNESCO et de l'ONU contre le racisme depuis 1945. Alors en fait, en 1945, c'est dans un contexte vraiment pacifiste et universaliste qu'est créée l'ONU et l'UNESCO aussi, dans l'idée de favoriser la coopération internationale, la compréhension entre les peuples du monde. Et donc, dès ces années-là, dès la fin des années 40, l'UNESCO lance un grand programme de recherche et d'action qui s'appelle le programme sur la question des races. Donc, l'UNESCO a demandé à des savants et des scientifiques de différentes disciplines et de différentes nationalités d'élaborer une déclaration sur la race qui analyse cette notion. Donc la première déclaration sera publiée en 1949, mais comme il a été très difficile en fait à tous ces savants à la fois de différents pays et de différentes disciplines de se mettre d'accord, la déclaration va être révisée à plusieurs reprises, notamment en 1950, 51 et 78. Donc cette déclaration, en fait, même si elle est dépourvue de force contraignante, a été importante parce qu'elle a exercé une force morale. Elle a bien posé le fait scientifique qu'il n'existe pas de race dans l'espèce humaine et que donc les préjugés raciaux sont infondés. Et le courrier de l'UNESCO, qui est la revue phare de l'institution de l'UNESCO, a diffusé dans de nombreuses langues et dans de nombreux pays des articles qui analysent cette idée antiraciste et qui en font la promotion. Mais cela n'a pas suffi pour déraciner les préjugés racistes qui étaient ancrés dans l'esprit d'une partie de la population mondiale. L'UNESCO, ainsi, a voulu mener une action en particulier en Allemagne, en Italie et au Japon. C'était les pays de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale qui avaient été très abreuvés de propagande fasciste et nazie. Donc elle a mené des programmes éducatifs puisque une des modalités d'action de l'UNESCO, c'est l'éducation. Les autres étant la science et la culture. Donc elle a mené des programmes d'éducation dans ces pays pour faire la dénazification des esprits, pour éduquer les esprits à la paix et à l'antiracisme. Mais la tâche de l'UNESCO était en fait malaisée car plusieurs de ses États membres, et notamment les plus puissants comme les États-Unis, appliquaient toujours dans les années 50 une politique de discrimination raciale sur leur territoire, puisqu'il y avait encore la discrimination raciale aux États-Unis. Il en va de même en Afrique du Sud avec l'apartheid qui était instauré depuis 1948. Ainsi, l'UNESCO devait être très prudente et promouvoir l'antiracisme sans condamner explicitement tel ou tel pays. C'était une tâche délicate. Pour approfondir l'analyse scientifique de ce sujet sensible, l'UNESCO a supervisé la rédaction de plusieurs brochures sur la question des races et notamment la plus connue de ces brochures a été l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss en 1952, « Race et histoire », qui est devenu un classique sur cette question. Et en fait, l'UNESCO a été soucieuse de mettre en valeur plutôt les situations positives de cohabitation entre groupes humains que d'insister sur les points négatifs. C'est pour ça que l'UNESCO a fait rédiger une étude qui s'appelle « Les contacts de civilisation en Martinique et Guadeloupe » par l'ethnologue français Michel Léris et une étude sur les contacts entre populations de différentes origines au Brésil. Donc l'idée est de mettre en valeur les cas comme au Brésil ou en Martinique et Guadeloupe où les civilisations, les groupes humains se mélangent sans conflit. Et l'UNESCO a organisé des expositions, des expériences pilotes et des études de cas, comme celle sur Nouville, un village français, dans laquelle Claude Lévi-Strauss et un jeune ethnologue, Lucien Bernot, ont étudié au plus près du terrain les préjugés xénophobes dans un petit village de Normandie au début des années 50. Parallèlement, à l'ONU, il y a eu beaucoup de discours marquants contre le racisme. Des personnalités du monde entier se sont élevées contre le racisme dans l'enceinte de l'ONU, qui est l'Assemblée générale, où les 193 États sont États membres de l'ONU. Et ainsi, en 1963, la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba a prononcé un vibrant discours à l'ONU devant l'Assemblée générale. Donc cette jeune chanteuse, engagée contre l'apartheid, a saisi cette occasion pour lancer un très émouvant appel contre la discrimination raciale et pour alerter l'opinion mondiale au sujet de la situation en Afrique du Sud. Je vais citer un extrait de son discours. « Je vous demande, à vous et à tous les dirigeants du monde, agiriez-vous différemment, garderiez-vous le silence et resteriez-vous sans rien faire si vous étiez à notre place ? Ne résisteriez-vous pas si on ne vous autorisait aucun droit dans votre propre pays parce que la couleur de votre peau est différente de celle des dirigeants et si vous étiez puni pour avoir simplement réclamé l'égalité ? Je lance un appel à vous et à tous les pays du monde pour faire tout ce que vous pouvez pour stopper cette tragédie en cours. Je lance un appel à vous pour sauver les vies de nos leaders, pour vider les prisons de tous ceux qui n'auraient jamais dû y être envoyés. » Ce discours, engagé et courageux, avait été mûrement préparé par Myriam Makeba pendant plusieurs jours, aidée de son ami, le chanteur américain Harry Belafonte. À la suite de ce discours, le gouvernement sud-africain a immédiatement retiré sa citoyenneté à Myriam Makeba. Elle s'est alors installée aux États-Unis et elle y a poursuivi son militantisme antiraciste. L'année suivante, en décembre 1964, c'est Ernesto Che Guevara, déjà un héros pour l'opinion mondiale, car il a aidé Fidel Castro à libérer l'île de Cuba. C'est Che Guevara qui se rend à New York pour représenter Cuba à l'ONU. En effet, il est maintenant non seulement ministre de l'industrie de Cuba, mais aussi ambassadeur itinérant de Cuba et président de sa banque centrale. Et il effectue plusieurs voyages officiels dans le monde pour représenter Cuba. Donc, à l'ONU, à New York, il prononce un important discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel il s'attache à dénoncer le racisme et l'impérialisme. Et il dénonce en particulier l'assassinat du leader congolais Patrice Lumumba en 1961, sur ordre sûrement de la Belgique et des États-Unis. En 1965, l'ONU adopte un important texte qui est la Convention de l'ONU contre le racisme, la déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, puis la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est entrée en vigueur quelques années plus tard, en 1969. Et à ce jour, 182 pays ont ratifié cette convention, dont la France, ce qui en fait un traité parmi les plus ratifiés au monde. Alors en fait, dans les années 60, il y a un tournant, puisqu'en 1960, on peut dire que c'est l'année de l'Afrique, c'est l'année où 17 pays d'Afrique subsaharienne deviennent indépendants, notamment des anciennes colonies françaises. Donc à partir des années 60, de nombreux pays d'Afrique adhèrent à l'UNESCO, ce sont des pays nouvellement indépendants, ils adhèrent à l'UNESCO comme à l'ONU, et cela va changer la configuration de l'ONU et de l'UNESCO. Désormais, ce sont les pays du Sud qui deviennent majoritaires et qui se font entendre. Donc à partir de ces années, les peuples du Sud expriment leurs revendications à l'ONU et à l'UNESCO, donc des revendications antiracistes et en faveur d'un nouvel ordre économique international plus juste. Et en 1974, pour la première fois, c'est un Africain, pour la première fois un non-occidental qui accède à la tête de l'UNESCO, le Sénégalais Amadou Matarembo. Et il va se consacrer à faire publier des revues, des publications contre le racisme et à promouvoir en particulier aussi la restitution des objets d'art et archéologie africains détenus dans les musées occidentaux, puisque les puissances coloniales avaient pillé ces objets d'art. Cela va d'ailleurs mécontenter les États-Unis, qui vont dénoncer une dérive tiers-mondiste, une politisation excessive de l'UNESCO, et qui vont se retirer de l'UNESCO en signe de protestation en 1984. Donc, dès ces années, l'UNESCO s'engage plus vivement dans la lutte contre le racisme et l'apartheid. En 1996, l'UNESCO reconnaît l'apartheid comme crime contre l'humanité et Nelson Mandela, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et lauréat du prix UNESCO Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prononce un grand discours à l'UNESCO en 1992, 2 ans après sa libération, après 27 ans de prison. Il y déclare, je cite, « L'Afrique du Sud est affamée de paix et de démocratie. » La majorité opprimée d'Afrique du Sud s'est battue pour conquérir le droit de déterminer son propre destin et notamment de décider elle-même ce que sera son avenir. Pour que cela soit, il est indispensable de réaliser la démocratie. Nous pensons que cet objectif mérite l'appui unanime de la communauté internationale. Depuis cette date et de nos jours, l'UNESCO promeut régulièrement, dans le cadre de son action éducative, l'éducation aux droits de l'homme. Et elle promeut des programmes scolaires améliorés et portant sur, par exemple, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des génocides et l'histoire de la lutte antiraciste, avec notamment le projet La route de l'esclave, sous l'impulsion de Doudou Dienne, ici présent, que je salue. Et en 2003, suite à la conférence de Durban contre le racisme, l'UNESCO a lancé la stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance. Ainsi, par exemple, l'UNESCO a mis sur pied une coalition internationale des villes contre le racisme. Et c'est un réseau de villes engagées pour échanger entre elles et intensifier leur politique de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'exclusion. Donc, ainsi, on voit que l'action de l'UNESCO comme de l'ONU contre le racisme ont été multiformes. Elle est passée à la fois par de l'action normative, des déclarations, des conventions, mais aussi des actions éducatives, des expositions, des publications. Et elle continue aujourd'hui encore en démultipliant les moyens et en utilisant les nouvelles formes comme Internet et les réseaux sociaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Chloé, pour ce panorama d'une longue période.